au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission au fil des pages. Je reçois aujourd'hui Michel Crépu. Bonjour Michel.
Bonjour Laetitia.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes rédacteur en chef de la Revue des Deux Mondes, revue partenaire de Canal Académie, et vous venez, comme chaque mois, nous présenter le dernier numéro. Il s'agit ce mois-ci donc du numéro d'avril. Après avoir traité de la présence de la musique dans les deux derniers numéros, la Revue des Deux Mondes renoue ce mois-ci avec la politique, avec cette question fondamentale, où va la droite ?
Oui, alors, bien sûr, ce numéro coïncide avec l'anniversaire de la première année de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Et puis c'était aussi, bien que nous ayons été obligés pour des raisons de bouclage de le faire avant les résultats des municipales, mais c'était bien entendu aussi une façon de ponctuer l'actualité politique française. Or, somme toute, les circonstances sont intéressantes et me conforte dans l'idée que c'était une bonne idée de faire ce numéro et de s'interroger donc sur le tournant ou la volonté de tournant qui a été prise il y a un an et donc de se demander dans quelle mesure ce qu'on appelle la droite en France est oui ou non et de quelle façon animée d'une culture libérale ou d'une...
Oui, est-elle différente déjà de ce qu'il y avait avant ? Oui.
Compte tenu du fait qu'en France, effectivement, il y a plusieurs sédiments. Je ne vais pas reprendre les fameuses catégories de René Raymond, mais tout le monde les connaît. Mais disons que l'arrivée de Nicolas Sarkozy a marqué, qu'on le veuille ou non, effectivement, une forme de rupture vis-à-vis d'un héritage, vis-à-vis d'une culture politique de droite, qui est un mélange, un agrégat de... Je ne voudrais pas caricaturer, mais enfin, on a à la fois du gaullisme, du bonapartisme, de l'ancienne Action française, toute une filiation idéologique très importante, passant d'ailleurs beaucoup par la littérature aussi, ne l'oublions pas. Et donc, il est clair que l'arrivée de Sarkozy a tout à fait dérangé cet héritage, y compris à droite, même peut-être surtout à droite, il y a certainement un certain désarroi devant une manière très... C'est peut-être la première fois, en définitive, que la droite en France est explicitement moderne. Nicolas Sarkozy est certainement le premier homme de droite moderne en France. Jusque-là, la droite n'était pas moderne.
Conservatrice.
Elle était la
oui.
droite. Maintenant, on a une connexion qui s'est faite entre ces deux catégories qui étaient jusque-là étrangères l'une à l'autre. La droite se définissait justement d'être anti-moderne, ou en tout cas n'ayant pas les affinités avec ce que pouvait symboliser la modernité. Là, on a cette connexion. Alors évidemment, ça fait des étincelles.
Ouais.
Ça fait
Et on se demande ce qu'elle est vraiment. Quelle est-elle vraiment, cette nouvelle droite de Nicolas Sarkozy ?
Et on se demande absolument parce que...
C'est le propos de Mathieu Laine.
Alors Mathieu Laine, qui a été l'artisan de ce dossier, s'interroge en effet sur les paradoxes, les contradictions, l'idéalisation de... Par exemple, il y a un article tout à fait intéressant sur Tony Blair et la façon dont Tony Blair incarne une sorte d'utopie.
D'idéal, oui.
D'idéal politique... trans-catégorie d'ailleurs, il fait rêver aussi bien à droite à droite. Et puis,
mais d'un autre côté, l'article dit que si on l'avait en France, il y aurait certainement ça coincerait d'ailleurs.
Oui, tout à fait, parce que là on retrouve évidemment
les mêmes contradictions libérales, anti-libérales.
Voilà, tout à fait. La France est un pays dans ce sens. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ce qu'a donné ce voyage de Nicolas Sarkozy à Londres ces jours-ci, aujourd'hui même. Alors nous parlons, intéressant de voir si une greffe peut prendre avec un pays comme l'Angleterre qui s'est lancé d'une façon aussi spectaculairement dénuée de scrupules, enfin d'atermoiement dans la voie libérale.
Ce dossier sur la droite est traité à la fois par des sociologues, philosophes, économistes, politologues. Et le débat tourne beaucoup quand même autour de la question, donc vous l'avez dit, du libéralisme et de l'antilibéralisme. Mmh. D'ailleurs, vous dites dans, vous écrivez dans votre éditorial, il y a un vrai travail de fond à opérer en France sur le rôle d'une véritable culture politique libérale, capable aussi bien d'audace et d'ouverture que de compréhension d'une histoire propre à la France, mmh. que l'on ne saurait confondre avec quelques schémas paresseux. Mmh. Or, on voit bien, donc, entre autres avec les articles de Raymond Boudon et de Guillaume Arner, que l'antilibéralisme reste profondément ancré en France.
L'antilibéralisme reste profondément ancré parce qu'il y a en France une histoire, effectivement, qu'on ne peut pas ignorer. C'est le pays qui a pratiquement inventé la République, enfin, en tout cas, pour qui la République, avec ce que symbolise la notion de République, est fondamentale. Donc les idées d'égalité, les idées de... On ne peut pas sous-estimer ça. Et donc toute la difficulté, c'est d'arriver à la fois assumer une histoire française dans toutes ses composantes et en même temps de lui donner un élan, un souffle qui peut se reconnaître dans une culture libérale. Mais ça suppose vraiment un travail d'histoire très très fort. Donc l'antilibéralisme se nourrit aussi des caricatures d'un libéralisme. Enfin, il faut être aussi sévère avec un certain militantisme étroit libéral qu'avec un militantisme anti-libéral, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'étais très content de faire ce dossier avec Mathieu Laine, parce que lui, qui est tout à fait alors libéral déclaré, l'est d'une manière qui échappe à la caricature, échappe à l'idéologie. Donc ça, c'est évidemment très, très stimulant. On a fait ensemble un entretien avec Marcel Gauchel dans ce numéro, qui est, de ce point de vue, je crois, une possibilité de ressaisir justement les composantes, les éléments constitutifs de la culture politique française.
Et ces notions de gauche-droite, justement.
Oui, absolument.
De libéralisme, anti-libéralisme. Mmh. Alors, je voudrais qu'on dise deux mots, vu qu'on est au micro de Canal Académie, de Raymond Boudon, donc de l'article de Raymond Boudon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, où lui critique beaucoup l'anti-libéralisme français. Et entre autres, au fait que l'État soit omniprésent, il y voit des gros freins, je dirais, au développement politique français.
Oui, alors là, on touche aussi à une affaire, un dossier énorme qu'il faudrait d'ailleurs reprendre, enfin, pour la énième fois, cette question de l'État qui pourrait peut-être...
L'État-providence.
L'État-providence, qui, d'ailleurs, je le note au passage, fait l'objet d'une analyse extrêmement intéressante dans un petit livre que je cite dans mon article, par deux jeunes économistes, Cahuc et Algan, qui s'appelle La société de défiance, qui est une analyse très très fine des raisons pour lesquelles en France on est dans une atmosphère, un climat de défiance et où le voisin se méfie de son voisin, où on ne fait pas confiance aux institutions. Et les deux auteurs la notent, et ça peut se joindre à l'article de Boudon, hein. Il note que là, je l'ai appris en tout cas, je l'ignorais, que la notion d'État-providence a été conçue au moment du régime de Vichy, pendant la Seconde Guerre mondiale, et que ces symptômes de défiance qu'on observe, qu'on peut même mesurer par des enquêtes, des sondages très, très, qui sont dans ce livre très, très précis, datent de la même période. La France n'a pas toujours été un pays en proie à la méfiance, et surtout en proie à la méfiance vis-à-vis des institutions. Et là, on a des éléments, là aussi, d'histoire, de compréhension historique, qui seraient vraiment à reprendre, à essayer de comprendre pourquoi l'État-providence conçu sous le régime de Vichy et organisé à la Libération, par le général de Gaulle, d'une manière différente, mais quand même, dans les composants, dans la genèse de tout ça, il y a, au fond, un malheur français qui est lié à la défaite de juin 40, qui est lié à un effondrement d'un certain nombre de choses dont on ne s'est pas véritablement remis, en définitive. Je ne dis pas ça en voulant remuer une fois de plus le couteau
contraire.
Dans la plaie, mais on n'a pas fini d'aller au fond de cette affaire.
Oui. La Revue des Deux Mondes n'est pas consacrée qu'à ce dossier. Bien d'autres articles s'y trouvent, mais je trouve que Nicolas Sarkozy, quand même, est très, très présent. Puisque même dans Marin de Viry revient donc Sur mai 68, à l'occasion de la sortie du livre de Glucksmann, Père et fils, mai 68, expliqué à Nicolas Sarkozy, vous-même, finalement, vous parlez de Nicolas Sarkozy dans votre article « Courte apologie de l'infanterie légère » où vous semblez regretter le manque de consistance du chef de l'État.
Écoutez, oui, la réponse est oui. C'est-à-dire que manque de consistance, entendons-nous bien, on ne devient pas président
oui,
de la
non,
République
bien
en
entendu.
Étant une chiffre molle, c'est évident. Mais ce que j'entends dans votre question et à laquelle je réponds oui, c'est justement à cette difficulté de dépasser simplement le stade d'une appréhension communicationnelle des choses, et passez-moi l'expression, il faut entrer plus avant dans l'épaisseur d'une histoire pour être capable d'insuffler un élan qui ne dure plus d'un quart d'heure.
Enfin, oui, une ligne directrice.
Or ça ne s'acquiert pas uniquement à coup de com'. Alors, je vois bien que depuis, les choses ont évolué, qu'il y a un souci d'incarner de manière plus noble, plus digne, une fonction présidentielle, etc. Bon, très bien. Mais là, on est encore dans une problématique de surface. Ce que j'attends, c'est un vrai travail de fond. Donc, un travail de fond, ça veut pas dire tout à coup se transformer en universitaire, savant, replié dans sa bibliothèque, alors que la scène politique, évidemment, appelle l'action, etc. Non, il y a une dialectique à trouver entre l'action politique et une patience de fond qui je suis parti dans une article d'une phrase de Salluste qui m'a enchanté, qui continue de m'enchanter. Salluste qui disait « On ne garde jamais le pouvoir que par les moyens qu'on a eu d'y parvenir ». En gros, c'est ça le mémoire. Et je trouve que ça résume extrêmement bien les choses où nous sommes. Et ça ne concerne pas seulement d'ailleurs Nicolas Sarkozy.
Non, mais c'est vrai que ça résume très bien la situation. Nicolas Sarkozy qui est mis à l'honneur par Marc Lambron, puisque vous publiez dans la revue de ce mois-ci un extrait de son roman à apparaître au mois de mai.
Un essai. C'est pas un roman, mais qui va s'appeler Bien danser maintenant, qui fait suite à son petit essai sur Ségolène Royal d'avant l'élection et dont nous donnons les premières bonnes feuilles.
Voilà, et c'est un déjeuner au ministère de l'économie à l'époque.
Du temps où Nicolas Sarkozy.
Exactement, ils sont reçus par le couple Sarkozy.
Oui, à l'époque.
À l'époque, Cécilia.
C'était Cécilia. Ouais.
Exactement. Et ça donne quelques pages savoureuses.
Ouais.
Donc, voilà. Mais la politique n'est pas uniquement française. Il y a aussi un article assez amusant sur la campagne électorale américaine et sur les deux candidats démocrates.
Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup, d'ailleurs, de le mentionner parce que c'est vraiment un jeune collaborateur de la revue, Frédéric Verger, qui a fait ça. Qui connaît bien les États-Unis et à qui j'ai proposé de suivre la campagne électorale. Il l'a fait en imaginant une espèce de petit récit comme ça qui s'intéresse au duel Obama-Clinton. Et je recommande vivement la lecture.
Moi aussi, et je dirais qu'on retrouve aussi un peu une des problématiques finalement qui se passe chez nous. Autour de la consistance, peut-être c'est un peu fort, d'Obama.
Oui, personnage flambant, dont on ne sait pas très bien si ça va durer, et sur quoi ça repose exactement. Et le personnage est très intéressant. On a pu lire de larges extraits dans le Monde de son discours à Philadelphie sur le problème du racisme en Amérique, qui, pour le coup, apporte une consistance. Mais voilà, donc tout ça reste encore très pointillé.
Donc voilà pour le numéro du mois de mai. Mais avant de la fin de l'émission, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour parler de l'actualité de la Revue des Deux Mondes elle-même, avec le lancement de deux événements, le prix de la Revue des Deux Mondes.
Oui. Alors, on a décidé de lancer un prix qui va récompenser un essai. Le prix s'appellera le prix de l'essai de la Revue des Deux Mondes. Essai qui sera choisi pour ses qualités littéraires, ça va sans dire, et aussi pour une pertinence quant au sujet. Donc, sujet, bien sûr, autant que possible, au cœur du débat d'idées actuel. Donc, ce qui ne veut pas dire, justement, avoir le nez collé sur la vitrine, mais d'être capable de recul, mais de pertinence quant à des questions qui se posent aujourd'hui à l'honnête homme, puisque la Revue des Deux Mondes ambitionne d'être la revue de l'honnête homme du 21e siècle. Donc, voilà, nous avons créé ce prix qui sera remis le 14 mai prochain au Bistrot de Paris, rue de Lille, qui s'associe à ce prix. Et puis cela coïncidera aussi...
Au deuxième événement.
Au deuxième événement qui est tout à fait concomitant et qui est l'ouverture d'un site internet. Il en existe un déjà, mais très rudimentaire. Là, nous allons avoir un site vraiment formidable et qui permettra surtout à ceux qui nous font l'amitié de venir de pouvoir entrer, moyennant quelques obols, de pouvoir entrer dans la collection entièrement numérisée maintenant de la revue, donc depuis 1829 jusqu'à nos jours. Donc ça, c'est absolument considérable. Ça va faire ça fera l'année prochaine 180 ans de vie intellectuelle en France. C'est bientôt en ligne. Je dirais, pour emprunter l'expression à l'un des éminents académiciens, Pierre Nora, pour ne pas le nommer, il s'agit véritablement d'un lieu de mémoire. Ces 180 ans qu'on va maintenant pouvoir redécouvrir en ligne constituent véritablement un lieu de mémoire.
Mais bravo, on attend ça avec impatience en tout
cas.
Bravo
à tous ceux qui ont écrit dans la revue depuis 180 ans.
Merci beaucoup Michel.
Merci à vous.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je recommande à nos auditeurs ce numéro, Où va la droite ? La Revue des Deux Mondes est disponible en kiosque et en librairie, ainsi que sur le site internet revuedesdeuxmondes.fr. Au revoir et à très bientôt sur Canal Académie.